De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucien Dale, Parizeau cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Mon prochain invité, c'est un peu spécial. On va aller le rejoindre en Chine. Il va nous préciser un petit peu où il est là-bas et pourquoi il est là-bas au cours de cette courte entrevue. Mais j'ai pensé vous le rappeler à votre bon souvenir parce que c'est un bonhomme qui a fait sa marque sur nos ondes avec notre projet l'école secondaire Fernand Lefebvre. Tassez-vous de là. Il s'agit de Raphaël Régis Bellumeur. Bonjour Raphaël.
Bonjour Jean.
En fait, on devrait te dire bonsoir parce qu'à l'heure où on enregistre, on est quand même passablement tard chez vous là.
Ah, c'est certain. Moi, je suis déjà en pyjama là, après cette entrevue-là. Moi, je vais directement me coucher.
Raphaël, explique-nous donc ce qui a fait en sorte, parce que tu as quitté la région, quoi, ça fait 3 ans déjà?
Pas exactement. Ça doit faire... maintenant, ça fait... Dans la dernière année, j'ai passé la bonne partie de l'année, la bonne majorité en Chine. Mais ça fait environ 3 ans maintenant que je me promène un petit peu entre les deux pays.
OK. Il y a bien sûr les études, mais si je sais lire entre les lignes en regardant ton Facebook, je pense qu'il y a aussi une attache particulière à la Chine.
Non, c'est sûr. Pendant que j'étudiais en Chine, pendant les premiers 9 mois que j'ai passé ici, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré ma copine qui s'appelle Tian Tian. Puis maintenant, elle vit en Chine et moi aussi, c'est sûr que ça m'attache un petit peu ici, là.
OK. Et est-ce que ça veut dire que ton destin est dessiné, là, tu as adopté ce nouveau pays pour y demeurer?
C'est pas certain. Tu sais, peut-être qu'on va revenir au Canada, on sait pas comment le futur va être. Mais dans mes plans maintenant, ce que j'aimerais après les études, c'est travailler pour une des ambassades ou un des consulats du gouvernement du Canada ici en Chine. Ce serait vraiment un plan qui m'intéresserait beaucoup pour l'instant.
On s'en est parlé avant que tu quittes l'aventure Tassez-vous de là. Tu as le potentiel de travailler dans les communications. Tu as une belle façon de t'exprimer et tu as une belle curiosité. Tu aurais pu être journaliste, mais tu as choisi une autre ligne. Qu'est-ce que tu étudies présentement? Quelle est la ligne dans laquelle tu t'es dirigé? Là?
En ce moment, ce que j'étudie... pour ce semestre-ci, c'est seulement la langue chinoise, parce que le prochain semestre, je vais commencer mon bac, et ce baccalauréat-là va être en économie internationale et commerce, et ça va se donner seulement en langue chinoise. Mon chinois est déjà quand même assez bon, mais je dois étudier obligatoirement 2 semestres de chinois, puis ensuite passer un examen, le niveau 4, d'un examen qui s'appelle le HSK, qui veut littéralement dire... l'examen standardisé du niveau chinois, si je pourrais traduire. Mm-hmm. Et après avoir passé cet examen-là, je vais pouvoir commencer en septembre prochain mon bac en économie.
Là, il n'y a pas juste la langue qui pourrait, pour plusieurs, être une barrière, mais il y a toute une adaptation. La vie est complètement différente. L'approche en affaires est quelque chose d'assez particulier. Plusieurs hommes d'affaires qui ont traité avec les Chinois ont témoigné qu'il faut tout un protocole. Comment tu te débrouilles là-dedans?
Ben, je me débrouille de mieux en mieux. Mais c'est sûr qu'il y a des petites choses qui sont vraiment étranges dans la culture chinoise qu'il faut vraiment faire attention. Par exemple, aujourd'hui, j'étais en train d'étudier mon chinois. J'étais justement à la maison du grand-père de Tian Tian. J'étais avec lui. Et à un moment donné, je lui ai demandé c'était quoi son nom. Puis, parce que je voulais savoir comment l'écrire. Je savais comment le dire, mais je ne savais pas comment l'écrire. Donc, il l'a écrit. Puis ensuite, je l'ai écrit après pour savoir comment l'écrire. Puis, il m'a appris parce que lui, maintenant, il est un peu ouvert puis il sait que je connais pas tous les us et coutumes de la Chine. Il m'a dit que je devrais jamais demander une question comme ça, que c'était un peu impoli de demander le nom de quelqu'un puis ensuite de l'écrire comme ça. C'est un peu étrange. Hein? C'est un peu comme nous ici, avant, on disait monsieur, madame, on disait pas vraiment le prénom de la personne. Mais là-bas, c'est encore plus que ça. Juste écrire le nom d'une personne qui est comme plus vieille que toi, puis de lui montrer que tu l'as écrit sur un papier, c'est un petit peu comme si tu étais trop familier avec la personne.
Ah. Alors, c'est beaucoup de respect de l'autre. Tu entres trop dans sa bulle, dans son intimité, en lui demandant son nom. Tu dois être présenté, j'imagine. Ça doit être la façon dont on doit procéder là-bas pour connaître quelqu'un d'autre.
Oui, il faut se faire présenter. Ou on peut se présenter, mais on appelle toujours les gens On les appelle jamais par leur nom. C'est très poli de leur demander leur nom de famille, mais par exemple, si c'est une femme qui est un petit peu plus, qui est d'un certain âge, tu vas l'appeler tante, Aï, qui veut dire tante, ou si elle est encore un petit peu plus vieille, tu vas l'appeler grand-maman, même si elle n'a rien à faire avec ta famille, là, même si je suis à l'autre bout du monde, j'appelle quand même grand-maman. Si c'est quelqu'un d'un peu plus jeune, je pourrais l'appeler petite sœur, grande sœur, mais jamais vraiment le nom.
Peu importe s'il y a une filiation quelconque, c'est son titre au sein de sa famille qui prime.
Pas vraiment au sein de sa famille nécessairement, mais par rapport à moi.
OK, d'accord. Raphaël, dis-moi, écoute, là, t'as quitté pour la Chine, mais je veux dire, on part avec notre petit baluchon comme ça, et comment on fait pour s'installer et de vivre là-bas? J'imagine qu'il a fallu que tu trouves du travail.
Oui, ben là, en ce moment, comme j'ai pas mal de temps de libre, parce que l'examen que j'étudie, il y a quelques classes qui se font à l'université, mais la plupart du temps, il faut que j'étudie chez moi, et ça me donne beaucoup de temps de libre. Donc, j'ai trouvé quelques petits emplois, comme enseigner l'anglais. Ça, c'est quelque chose de très populaire ici, un peu partout en Asie, mais principalement en Chine. Et
j'ai vu la vidéo où tu, justement, performes devant une classe de très jeunes Chinois, là.
Oui, ben, c'est sûr que ce que les boss nous disent en Chine, c'est qu'il faut rendre les enfants heureux, parce que il y a les professeurs d'anglais chinois, tu sais, ceux qui sont chinois, qui vont plus leur apprendre la grammaire, ces choses-là, mais quand ils essayent d'employer quelqu'un qui vient d'un autre pays, comme ça, c'est pour donner le goût aux enfants d'apprendre la langue. Donc, c'est pour ça qu'il faut réussir à faire quelque chose qui est un peu amusant pour eux, là.
Quand tu regardes et compares les deux civilisations, t'as trouvé étrange peut-être leur politesse extrême, mais qu'est-ce que tu dirais qu'ils ont l'avantage sur nous? Quels sont les points positifs là, que tu retiens de la civilisation chinoise?
Un point vraiment positif, là, c'est la manière dont la famille s'entraide. J'ai l'impression quand je parle à ma grand-mère puis elle me parle du temps de sa mère et tout ça que je ressens un petit peu le même effet. C'est vraiment l'effet de la famille et de la communauté qui est vraiment importante. Ça, c'est sûr, c'est pas en Chine, mais quand les Chinois viennent s'installer à Montréal ou en Europe, par exemple, ou en Amérique du Nord, tout simplement, ce qui est un phénomène qui est étrange, qui se passerait jamais avec nous, les Québécois, j'ai l'impression, c'est que, imagine que tu arrives sur un nouveau continent, t'as presque pas d'argent, t'as rien. Ben, les Chinois arrivent à Montréal, ils vont parler avec la communauté, puis souvent la communauté va leur prêter de l'argent, des grandes quantités d'argent, des grands montants pour être capable d'ouvrir leur petite épicerie, dépanneur, pharmacie ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on se demande toujours comment ces immigrants-là sont capables de, ces Chinois-là, sont capables d'ouvrir et de s'installer aussi facilement que ça. C'est parce qu'ils ont l'esprit de communauté qui est vraiment très développé par rapport à nous, je pense bien.
Et face à un nouvel arrivant comme toi, est-ce que c'est la même générosité?
Quoi?
Face à un nouvel arrivant comme toi, est-ce que c'est la même générosité?
Je pense que oui, parce que j'ai vu que c'était pas la même chose pour tous les étrangers qui arrivaient en Chine, parce que la Chine n'est pas un pays d'immigration, là. La Chine a 1,4 milliard d'habitants, puis il y a seulement environ 500 000 personnes qui viennent de d'autres pays qui sont ici en Chine. La plupart de ces gens-là qui sont seulement ici pour quelques jours la plupart du temps. Donc, c'est pas un pays d'immigrants. Dans la rue, quand je marche, la plupart du temps, quand la personne est un petit peu âgée, la personne se retourne derrière moi pour me regarder parce qu'il n'en voit pas tous les jours. Mais l'affaire qui me différencie beaucoup des autres étrangers, c'est que je parle chinois. Ouais. Souvent, les gens, des fois, quand je vois quelqu'un qui me regarde puis qui a un petit air un petit peu... comment dire, pas de rejet, mais un petit peu de dédain, quelque chose comme ça, parce que, tu sais, on n'est pas tout habitué, on réagit pas tout pareil face à l'adversité, c'est sûr. Donc, moi, je me mets à leur parler, puis là, il y a le gros sourire qui s'installe, puis une belle conversation, puis c'est pour ça que je pense que je suis un petit peu différent de certains étrangers que j'ai rencontrés, parce que je parle chinois, et en Chine, la langue, c'est très important.
Est-ce que par la force du nombre, tu irais jusqu'à dire qu'ils sont jusqu'à un certain point racistes face aux étrangers?
C'est un petit peu plate à dire, mais je dirais qu'un petit peu, oui. Mais c'est pas vraiment un racisme qui est autant que, par exemple, en Amérique. Parce qu'en Amérique, j'ai l'impression que les gens qui sont racistes décident d'être racistes. Parce que de nos jours, c'est, c'est possible d'avoir de l'information sur toutes les autres cultures. On rencontre des autres cultures partout dans la rue, dans les rues, dans les magasins, les propriétaires, des gens qui travaillent avec nous, qui viennent de d'autres pays. Donc, ceux qui sont racistes ici, en Amérique du Nord, c'est un peu différent. C'est un peu comme s'ils le choisissaient. En Chine, le racisme, oui, il existe, puis j'aimerais ça dire non parce que j'adore la Chine, mais oui, ça existe, le racisme ici. C'est plutôt face à la désinformation. Les gens ne connaissent pas. Les gens, ils savent pas vraiment c'est comment dans les autres pays. Donc, c'est un peu des fois des préjugés qui embarquent comme ça. Mais une fois que tu parles avec eux, puis qu'ils voient que tu t'intéresses à leur culture, à leur langue et tout, leur opinion change complètement.
Le temps file. Il y a deux points que je voudrais toucher avec toi. Il y a d'abord l'aspect effervescent de l'économie chinoise qui a pris son envol là, avec le changement de régime un peu. Comment tu vis ça? On m'a déjà dit, un importateur m'a déjà dit qu'il faisait affaire avec la Chine, que lorsqu'il arrivait là-bas, il avait l'impression de retomber dans les belles années, dans les beaux jours des années 50, alors qu'ici, tout était permis, que l'économie était vraiment là, à son paroxysme. Est-ce que tu ressens là-bas aussi?
Ben, je veux dire, Jean. Moi, c'est sûr que j'ai pas connu les années où ce qu'on pouvait lever un char par le pare-choc.
Non, c'est sûr.
Dis-tu vois ce que je veux dire. Mais pour répondre à ta question, oui, je le vois le développement ici. Parce que ce qui est vraiment spécial, c'est que je me promène dehors, n'importe où, en campagne ou en ville, je vais voir 3-4, que je sois n'importe où, je vais voir au moins 3-4 grues alentour de moi en train de bâtir des immeubles à logement ou des gros immeubles pour avoir d'autres compagnies et tout ça. Partout, il y a de la construction. Que je regarde n'importe où, on dirait qu'il y a de la construction qui se fait. Ça montre qu'il y a un grand développement en Chine.
Ça, c'est, j'imagine, c'est positif ça, pour tes visions de l'avenir possible dans ce nouveau pays d'adoption. Hein.
C'est sûr qu'il n'y a rien de mieux qu'un pays en développement quand on veut s'y installer. Là, c'est un peu comme le Far West. On dirait que toutes les opportunités sont possibles ici, là.
Ben, en terminant, justement, c'est ce que j'allais dire. Là. C'est un peu un développement presque sauvage qui fait en sorte que la pollution a aussi connu une augmentation assez phénoménale, assez effrayante, oserais-je dire.
Ouais, ça, c'est sûr, c'est un autre problème. Même si le gouvernement de la Chine, dans les 2 ou 3 dernières années, a commencé à faire des mesures pour essayer de faire baisser la pollution, c'est un problème, un point négatif qui est arrivé avec le développement. Mais le problème avec la pollution, c'est qu'elle se concentre surtout dans certains endroits de la Chine, et c'est toujours les endroits qu'on voit dans les médias. Ouais. La plupart des endroits qui sont pollués, ça va être la capitale, Pékin, dans les alentours de Shanghai, et beaucoup plus au nord dans la Mandchourie, parce que c'est très pollué. Puis le problème avec ça, c'est que c'est pas que juste ces endroits-là qui polluent, mais c'est parce que les vents convergent dans ces endroits-là. Puis ça fait que la pollution de toutes les autres provinces alentour va tous se ramasser là. Puis c'est pour ça que ces endroits-là, en particulier, sont vraiment touchés. C'est les endroits où, à cause de la pollution, on peut même pas voir sa main en avant de soi. Mm-hmm. C'est vraiment... Il y en a quelques-uns. Là. C'est pas tant pire que ça.
Toi, dans ton coin, est-ce que c'est touché de façon assez grave? Ou si tu... fait partie des chanceux qui vivent dans des endroits moins pollués?
Ben, je veux dire, Jean, quelque chose de spécial qui s'est passé avec ma région, c'est que avant l'été passé, c'était quand même assez pollué. Tu sais, on parle pas de comme Pékin, mais c'était peut-être une journée par semaine où l'air était pas super. Là. On pouvait quand même voir assez loin, mais tu voyais qu'il y avait un petit smog dans l'air. Mais là, il s'est passé quelque chose de spécial l'été passé. Il y a eu le G20 à Hangzhou. Je suis à Hangzhou en Chine, l'endroit où il y a eu le G20 l'été passé. Okay. Et avant le G20, environ peut-être 4 mois avant le G20, le gouvernement chinois a décidé de faire fermer toutes les usines qui polluaient, toutes les usines qui brûlaient du charbon pour se fournir de l'électricité ou qui polluaient à plus que tant de ppm, de particules par million de pollution, a décidé de toutes les fermer. Ce qui a fait que cette ville-ci est devenue avec un ciel bleu et un... Je voudrais dire que la nuit, on voyait autant d'étoiles que quand je vais à la TUC. Là. C'était vraiment impressionnant. Là. Quelque chose que.
Il y a vraiment des mesures drastiques. Là. Quand ils décident de faire quelque chose, ils vont pas avec le dos de la cuillère.
Ah, ben, c'est à cause qu'il n'y a pas l'opposition qui est toujours là pour s'obstiner. On s'entend qu'ils veulent faire quelque chose, ils le font.
Mais toi qui étais justement très éveillé côté politique, est-ce que tu t'oserais quand même pas dire que c'est l'idéal d'avoir un régime comme celui-là?
J'irais pas dire que c'est l'idéal, mais quand je vois de la manière que les leaders chinois sont élus, c'est pas tant comme une... C'est sûr que certaines personnes pourraient dire que un seul parti, pas d'élection, c'est une dictature, mais moi je le vois d'une autre manière un petit peu. C'est que les leaders qui sont au sein du Parti communiste sont des gens qui ont dû s'éduquer, des gens qui ont dû travailler fort pour arriver là. Comme par exemple ma compagne, Tian, qui vient d'une famille très modeste, mais qui à l'école performe vraiment, vraiment, qui a vraiment des hauts scores comparé à ses camarades de classe, a réussi à se faire une place au sein du Parti communiste comme un membre probatoire. Puis tu sais, c'est des gens comme ça qui gravissent les échelons tranquillement, puis qu'à un moment donné, ils réussissent à aller à la haute sphère politique de la Chine. Donc, c'est pas des gens qui ont juste eu le pouvoir un peu comme en Corée du Nord, par exemple. Là, c'est des gens d'expérience qui ont dû travailler fort pour se rendre là.
Raphaël, malheureusement, c'est déjà tout le temps qu'on a, mais toujours intéressant de discuter avec toi, autant politique que d'environnemental et de ta vie là-bas. Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, puis je vais te laisser le mot de la fin pour saluer les gens que tu as laissés derrière ici dans la région de Sorel-Tracy.
Ah, eh bien, salut tous les Sorellois que j'ai pas vus depuis longtemps. Je devrais revenir cet été pendant un petit moment. On pourra toujours se voir puis aller prendre un café pendant ce temps-là. Je vous souhaite d'avoir un bon jusqu'à ce temps-là.
Ben, on souhaite que tu passes nous saluer également. Merci beaucoup, Raphaël.
Ah, merci, Jean. Au revoir.
Raphaël Régis Bellumeur qui nous parlait de la Chine, là, son pays d'adoption, en tout cas pour quelques années encore, alors qu'il trouve là-bas non seulement une façon de s'épanouir avec ses études, mais également aussi où il y a trouvé l'amour. Ça, c'est pas rien. On s'arrête là-dessus, on vous revient après la pause.